dévoilement de l'identité hébraïque chez Abraham. Au point de départ, il y a une identité que je vous ai définie à travers le Talmud comme étant une identité araméenne. Et du dedans de cette identité aram, va se dégager l'identité de Abraham à Ivri. Et lorsque cette identité hébraïque va finir par se dégager à la suite d'un très long effort d'engendrement qui prend trois générations et qui est environnée de rivalités, nous avons énuméré une après l'autre, alors on arrive à l'identité de Jacob qui reçoit le nom d'Israël. Mais pour le moment, nous sommes tout au début de cette histoire et on a vu que à la sortie de l'exil d'Ur-Kasdim, il y a différentes étapes de réussite ou d'échec de cette sortie d'Ur-Kasdim, qui est la récapitulation de l'exil antérieur des Hébreux dans la civilisation mésopotamienne. Abraham quitte Ur-Kasdim accompagné de Lot. Alors, c'est un des personnages qui accompagne l'histoire d'Abraham au début. Et à un certain stade, ils se séparent, et il y a un rendez-vous pris de façon non explicite, mais la suite du Tanakh tout entier va le dévoiler, pour la fin des temps, lorsque ce qu'il y avait d'authentique, mais enfoui, caché, rendu impur, dans l'identité Lot, qui est une identité parallèle à l'identité Abraham, si elles étaient de même niveau d'authenticité, elles se seraient confondues. Lot aurait été un des familiers d'Abraham, on n'aurait pas raconté son histoire. Et Lot, si vous voulez, c'est un Abraham qui n'a pas réussi à devenir Abraham, il est resté Lot. Alors il est devenu autre, si j'ose dire. Mais c'est un personnage très important de cette histoire. Alors nous allons suivre les débuts du compagnonnage, si j'ose dire, et quels sont les critères, les raisons qui font que il faut que ces deux identités se séparent. Encore une fois, nous le verrons d'ailleurs déjà aujourd'hui, je pense que cette séparation n'est pas totale, irrémédiable, définitive. Il y a rendez-vous pour la fin des temps, mais elle n'est pas totale comme la séparation de la coexistence impossible entre Caïn et Abel à l'origine de l'histoire. Entre Caïn et Abel, la relation de fraternité n'a pas pu s'installer. Un des deux est supprimé. Là, il y a un progrès. Nous verrons que la relation de fraternité qui se cherche entre Lot et Abraham, entre Abraham et Lot, disons, ne peut pas s'installer. Mais il y a séparation. Il n'y a pas suppression de l'un par l'autre. Bien, voilà un peu de quoi nous allons nous occuper à partir de maintenant. Vous reprenez vos textes. Je préférerais que vous suivez sur texte parce que sinon ce sera moins sonorisant.
Alors,
vous prenez déjà le verset 4 du chapitre 2. Alors, Yudbet Dalet. Et nous allons voir que, au début du récit, la Torah rassemble Lot et Abraham. Abraham et Lot sont ensemble, Yarda. Et lorsque Abraham a reçu la première révélation qui commence au début du chapitre 12, il y a une promesse de fécondité et de bénédiction qui est donnée à Abraham. C'est la première révélation à Abraham jusqu'au verset 4. Et cette promesse de fécondité et de bénédiction est difficile à entendre jusqu'à ce que Abraham soit disponible pour pouvoir l'entendre. Je dirais dans un vocabulaire différent, de plus en plus, pour serrer un peu ce que le texte veut nous transmettre. C'est qu'au début de son histoire, tout se passe comme s'il y a une opacité trop grande encore entre l'identité hébraïque d'Abraham qui doit se dévoiler et ce qu'il entend comme promesse, comme révélation. Ce n'est qu'à un certain moment que la Torah dit « Ve'emin Bashem ». Et Abraham a eu Emouna en Hachem, à un certain moment seulement. C'est toujours la même promesse qui lui est donnée, mais elle va être donnée de façon de plus en plus explicite à la mesure où Abraham est de plus en plus disponible pour l'écouter. Quels sont les obstacles? Eh bien, les obstacles, c'est cette identité araméenne, où il y a le pressentiment de l'identité hébraïque, mais encore que sous forme de pressentiment, et tout se passe comme si, alors qu'il est évident pour la conscience d'Abraham, c'est Abraham qui est encore Abraham, que c'est Dieu qui se révèle à lui, nous avons le témoignage du texte, et il le sait, mais il y a une sorte d'invraisemblance qui l'empêche d'intégrer ce qu'il entend, jusqu'à ce que ce soit possible. Ce que j'essaye de mettre en évidence, ce qui vous permettra de suivre le récit dans sa cohérence propre, c'est pourquoi ces promesses sont répétées plusieurs fois. Et plusieurs fois, elles sont répétées de façon beaucoup plus explicite, jusqu'à ce qu'en fin de compte, Abraham puisse les entendre vraiment. Et alors là, le texte dit « Ve'emin Bachem ». Alors il a, je n'ai pas encore traduit en français, on ne peut pas traduire, il a cru, parce qu'il était sûr, mais il a fait confiance. C'est-à-dire, le manque de confiance n'était pas d'Abraham vis-à-vis de Hachem, mais vis-à-vis de lui-même. Est-ce que je suis celui qui mérite que Dieu s'adresse à lui ainsi? Et nous verrons que cette espèce de safek, cette espèce de doute, cette espèce de... j'employais hier au cours un autre terme, je ne reviens pas aujourd'hui, suspicion, c'est pas encore exact, mais vous comprenez en hébreu, porte sur lui-même, bamé edar ki irachena. On verra le verset. On voit Abraham demander des signes. Dieu s'adresse à lui pour lui promettre des promesses, et Abraham demande des signes. Est-ce qu'il y a une mise en doute de quoi que ce soit? Alors nous verrons qu'il y a un problème très grave, parce que cette difficulté d'admettre que je suis celui à qui Dieu s'adresse pour dire c'est toi, eh bien c'est une difficulté qui travaille l'identité juive jusqu'à notre temps. Ce n'est pas encore résolu. Le Maharal en particulier, dans un livre important qui est Gvurot Hashem, s'en est occupé. Il nous donne des citations claires du Talmud qui mettent cela en évidence. Tout le problème de cette tension à l'intérieur de l'histoire d'Israël, les temps d'exil et les temps de rassemblement, se relient à ce problème. Et j'espère qu'on arrivera déjà aujourd'hui, mais je ne crois pas. Mais à l'indiquer, schématiquement, Dieu dit à Abraham, il va y avoir recommencement de l'histoire de l'humanité par toi, moi ni par moi, et je te donne cette terre qui est le berceau de l'humanité, ah oui, tu es sûr, et c'est pour ta descendance, laquelle j'en ai pas, mais cette atmosphère d'invraisemblance. Alors qu'Abraham sait que c'est Dieu qui lui parle, ça veut dire que le doute, c'est pas vis-à-vis de Dieu, c'est vis-à-vis de lui. Est-ce que je suis celui à qui Dieu dit c'est toi? Et c'est ça l'inquiétude juive permanente. À propos de ces trois dimensions de la promesse, faut toujours évoquer à la fois la postérité, la terre, la Torah. Et voilà que sur ces trois dimensions de la promesse, tout se passe comme si, jusqu'à la fin des temps pré-messianiques, Israël réagit en disant sur les trois choses, quoi. La Torah, moi, la postérité, la bénédiction, moi, la terre à moi, peut-être c'est aux autres. Vous avez remarqué à quel point nous vivons ces problèmes-là. Et chacun se cherche des alibis brillant pour essayer d'expliquer ce doute qui est toujours le même depuis l'origine, un doute de soi. C'est clair ce que je veux dire? Vous voyez ce qui se découvre là? Ça se découvre à la racine de l'identité d'Israël, et c'est comme ça que le Maharal explique. Le Shoresh, dans la racine de l'identité d'Israël, en Abraham, apparaît déjà cette perspective de perplexité. Quand finalement, c'est en français le terme le plus précis, c'est perplexité. Dieu s'adresse à une de ses créatures pour lui dire « C'est pour toi que j'ai voulu créer le monde, imaginez le vertige. » Et avec tout ça, c'est une espèce de réaction de vertige. Moi, vraiment, est-ce que c'est clair? Bon. Alors, il m'a aussi approché comme ça un peu détendu, parce que c'est tellement tragique que ça risque de nous rendre juifs. Enfin, vous avez compris ce que j'ai pas dit. C'est d'ailleurs énorme comme effet de lecture de voir que Dieu s'adresse à Abraham pour lui promettre quelque chose qui finalement, dans l'expérience humaine, est banal, avoir un enfant. Indépendamment des cas c'est pas possible, mais c'est quand même une banalité à l'échelle de l'universel humain. Les cas où c'est pas possible, c'était pas le cas d'Abraham, puisqu'il en a eu. Et puis, toute cette atmosphère d'invraisemblance devant une promesse qui apparemment porte sur un objet aussi banal. Est-ce que c'est clair, c'est juste, okay? Et n'oubliez pas que ça va être la définition de la foi d'Israël. La première fois, j'ai pas fait exprès, que le terme de foi, là j'ai fait exprès, est employé, c'est pour dire que Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant, et qu'Abraham a fini par l'admettre. Alors il faudra bien réfléchir à ça. Il y a une promesse de fécondité retrouvée qui est difficile à intégrer, et nous poserons donc, au fur et à mesure du récit, la question de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, en quoi cette identité arabe est tellement opaque, est tellement obstacle à ce qui aurait dû nous paraître, ce qui devrait nous paraître a priori comme une évidence qui irait de soi. Et où est le mérite de la foi quand c'est Dieu qui promet? Et quand on sait que c'est Dieu qui promet, où serait ce mérite? Et donc, il faudra bien y réfléchir. Je vous donne une première réponse très, très partielle, puisque j'ai posé la question. C'est que précisément c'est Dieu qui promet et voilà que ça ne se réalise pas. Alors il y a donc un mérite à y croire. Si ce n'était pas Dieu qui promettait et que ça ne se réalise pas, bon, ça va. Mais c'est Dieu qui promet et ça ne se réalise pas. Alors y croire quand même, c'est un mérite colossal. Parce qu'il y a un obstacle à la hauteur de la promesse. Et donc cet obstacle, on va voir qu'elle est dans l'identité d'Israël même. Alors il y a une manière optimiste, disons, consolante de l'exprimer, c'est parce que l'identité d'Israël est aux prises avec une histoire d'engendrement très difficile. Il faut faire ressurgir l'identité ivri de l'identité arabe. Et je ne cesserai jamais de le répéter, parce que c'est un problème que nous vivons en tant que société juive redevenant hébraïque. Je vous ai donné la dernière fois, on a perdu du temps à cause de ça d'ailleurs, mais je crois que ce n'est pas du temps perdu. Un parallèle que j'ai de plus en plus le courage de formuler de façon aussi carrée, et vous comprenez pourquoi, ce parallèle entre Aram et Ver, en fin de compte, c'est le parallèle entre l'identité juive et l'identité israélienne. Et l'identité israélienne est un effort de retrouver l'identité hébraïque du dedans de l'identité juive, et on voit que c'est pas simple. Je crois que tout le problème de la tension d'identité de la société juive pour elle-même, et spécialement de la société israélienne, peuvent se résumer dans cette formule. Toutes ces dimensions de fuite de soi-même, ou de position à soi-même, et de mépris de soi-même, parfois de haine de soi, plus que de mépris, caractérisent les juifs contemporains, c'est sans doute, parce que, surtout en Israël, c'est sans doute qu'ils sont aux prises avec ce problème-là. Comment redevenir hébreu du dedans de l'identité arabe, alors que c'est l'identité arabe qui a préservé la chance de résurrection de l'identité hébraïque. Il y a ici, on est aux prises avec un problème d'erreur de fidélité dont j'ai un peu parlé hier, je ne sais pas pourquoi ça me revient, pour ceux qui étaient au cours de Paracha. Une sorte de tendance à vouloir rester fidèle au stade où on était encore à espérer que ça arrive. Alors qu'on est déjà au stade où c'est arrivé. Alors, une espèce de nostalgie du temps de l'espérance qui n'avait pas encore de réalisation. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Okay? Et vous voyez cette tension difficile entre les Sabras et les Juifs. Jusqu'à ce que les Juifs disent Sabré Marana. Non, on revient un peu au problème. Je crois que c'est ça qui arrivera à Black Apart, finalement. À ce moment-là, on dirait le kidouche. Alors, premièrement, qu'est-ce qui se passe dans l'identité de Lot, de telle sorte que Lot doit être séparé d'Abraham, et dans quelles circonstances? Alors, on prend le verset 4. « Vayelech Abraham, kasher libere la vachem » et Abraham alla, comme le lui avait ordonné Dieu. Retenez bien les termes libéré Hachem, ici, pour ceux qui sont plus avancés. Ça veut dire il alla, à partir de Haran, à partir de Jabokazim, si vous voulez, Bayelech Ito Lot. Et Lot est allé avec lui. C'est pas simplement une information anecdotique. C'est très important comme information. L'identité d'Abraham ne quitte pas seule la préhistoire de l'exil d'Okazim, il est accompagné par une identité, l'autre. Et nous savons qu'ils sont très proches, ils sont parents. C'est une autre manière d'être araméen en vue de redevenir hébreu, mais qui va échouer. C'est clair jusque-là. Alors, quelle est la nature de son échec? Abraham ben Chameshani Meshib Mimshana, Betsetomechlevan, une indication qu'on étudie dans la Kabbalah. Pourquoi il faut savoir quel âge il avait à ce moment-là? C'est un autre problème, je passe. Verset 5. Vaïkach Abraham et Sarai Ishto, et Abraham prit Sarai, sa femme, Vet Lot ben Achiv, et Lot, fille de son frère, Vet Kol Rechusham, et toutes leurs possessions, Asher Achashu, qu'ils avaient acquises, Vet Anefesh, Asher Asu Beharan, et les personnes qu'ils avaient faites à Haran. Un jour, une petite parenthèse, c'est un problème important pour lui-même. Le Talmud enseigne qu'il faut comprendre dans cette expression pas seulement les clients dans le sens latin du terme, c'est-à-dire les serviteurs de la maison, les clients d'une famille dans le sens de la famille romaine. Je ne sais pas pourquoi je prends cette comparaison, mais elle est claire. Okay? Et la clientèle d'une certaine identité, mais littéralement les personnes que Abraham et Sarai avaient converti à leur projet d'identité Israël. C'est clair ce que je dis là? C'est ce nefesh chercher Asou Becharam, ça pose un problème d'exégèse, et parce qu'ils ont disparu finalement. C'est-à-dire, je voudrais le prendre de façon un peu plus ample, ce problème. L'identité des patriarches, comme on dit en français, des avots, les engendreurs, c'est de faire le peuple d'Israël. C'est de faire le peuple des fils. Les avots ont des fils. C'est pas leur rôle d'avoir des élèves. C'est les maîtres qui ont des élèves. Les pères ont des fils. L'idéal, c'est quand le père et le maître, c'est le même. Vous comprenez l'importance du sujet. Or, pour l'histoire d'Israël, les avots, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Ils ont engendré les bnei Israël. Le maître, c'est Moshe Rabbeinu. Alors on voit que les fils de Moshe n'ont pas d'importance dans notre histoire, les fils de Moshe. C'est ses élèves qui ont une importance, Israël. Et en tant que les fils de Moshe font partie d'Israël, c'est important, les fils de Moshe. En tant qu'ils font partie d'Israël, comme élèves de Moshe. Vous suivez l'analyse? Alors les élèves des avots disparaissent. Et c'est ça qui est un effet chercheur à Soudéhara. C'est pas leur rôle. Et pourtant, le texte témoigne, ils ont commencé un prosélytisme. Ce que Dieu cherche, c'est la descendance des avots, pas leurs disciples. De la même manière, ce qu'il cherche pour Moïse, c'est ses disciples, pas sa descendance. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ce problème, mais puisqu'il est arrivé, ils ont parlé.
Ils disparaissent complètement, ils disparaissent du texte.
Avec qui? Et s'ils disparaissent du texte, ils disparaissent complètement. Mais j'y reviens. Ils reviennent. C'est des revenants. Et ça, on l'apprend particulièrement au moment de la fête du Vaudor. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, alors j'en parle en parenthèse. Quand Dieu décide de détruire le peuple qui a fauté, la génération du peuple qui a fauté au moment de la fête du Vaudor, il dit à Moïse, de toi, je ferai sortir une grande nation. Mais Moïse, qui connaît les intentions de Dieu, dit non, tu ne peux pas. La grande nation, c'est les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à qui tu as promis la promesse. Ça, un peuple qui viendrait de moi. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'un peuple qui viendrait de Moïse viendrait quand même d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisque Moïse est descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est clair? Oui, c'est les fonctions qui sont différentes. Un peuple d'Israël venant de Moïse, ce serait une église d'Israël avec comme pape Moïse. Alors que Israël, c'est la nation d'Israël, les descendants des patriarches, qui ont comme prophète Moïse. Ça n'a rien à voir. Et vous savez très bien qu'il y a dans l'histoire juive des tendances à ce programme que Moïse a refusé, sachant très bien que lui attendait qu'il lui dise non. C'est-à-dire de fonder une église d'Israël qu'on appellerait une synagogue. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire une religion séparée de la nation. Et chaque fois que ces tentatives ont existé, elles ont disparu. Même si ça prend des siècles, ça disparaît. La tentative la plus connue historiquement, c'est les Sadducéens. Mais vous savez très bien que les Sadducéens ont disparu avec les conditions historiques qui les ont fait exister, la culture grecque, mais la tendance au sadducéisme n'a pas disparu. Je ne vais pas vous les identifier aujourd'hui, vous les identifiez tout seul.
On apprend dans ce cas Moshe avec les fils d'Aaron.
Bien fait. D'accord, ça renforce. D'où on apprend que les élèves sont appelés des fils de Veshinata le Bincha, quand on enseigne aux fils. Alors l'analogie est inversée. Tsahar Gidul Banim, on l'apprend des fils, pas des élèves. Mais c'est avec les élèves. Bien. Et c'est dans le Veshinata le Bincha. Mais on apprend d'ailleurs de Moïse, pour que j'ouvre une petite parenthèse, puisqu'on est sur le sujet, qu'un de ses fils, Yatsal et Tabutraha, ça veut dire un de ses fils, un des fils de Moïse, c'est Menaché. Et il a quitté.
Gershon.
Gershon
ben Menaché,
il est devenu hérétique, si j'ose dire. Là, je voudrais une petite parenthèse. Je n'aurais pas cité ça parce que c'est un peu dur, mais il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu la visite d'un Talmid Chacham des orthodoxes antisionistes, et on a étudié ensemble, mais donc, tout est possible dans la vie. Et alors, il a cité le Chidouche que je vais vous citer. Et donc, puisque déjà lui, il a cité, je peux vous le citer. D'ailleurs, je trouve ça va. Nous avons inversé. Dans le livre de Shmot, dans la paracha où Moïse s'installe chez Jethro, le verset dit « Vayoel Moshe la Shevet et Taïch ». Moïse a accepté de s'installer chez Jethro. Sur ce « Vayoel Moshe », il y a un midrash qui dit « Il a accepté les conditions que Jethro lui a imposées ». Et Jethro lui a imposé deux conditions, d'abord de ne pas partir sans lui demander la permission. C'est un problème que nous aurons à retrouver, pourquoi une fin d'exil n'est possible que si on demande la permission des goïms chez qui on est en exil. Rattaché déjà avec la sortie d'Égypte. Donc le pharaon n'a pas dit « Ok, c'était pas possible ». Il a fallu l'obliger. « Kofinoto at seyomar anirot ». C'était un divorce difficile. Et de la même manière, on n'a pas pu sortir de Babel pour le deuxième exil sans que Koresh n'ait pas donné le feu vert. Et de notre temps, on n'a pas pu quitter le monde de l'assimilation occidentale sans la déclaration de Balfour. Et à chaque fois, il a fallu qu'on ait la permission. Bon, il y a des juifs qui n'ont pas entendu qu'on a eu déjà la permission et qui continuent à se demander est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis. Et ça, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière d'ailleurs. Ils n'ont pas vu que la muraille s'est écroulée. Et alors, en tout cas, c'est la première clause que Jethro a imposée à Moïse. Ne pas partir sans demander la permission. Il y a des raisons pour ça. Si Jethro n'est pas d'accord, Moïse ne peut pas le quitter. Si le pharaon n'est pas d'accord, Israël ne peut pas sortir d'Égypte. Comme il doit sortir, il faut obliger le pharaon, d'où les 10 plaies. Une des fonctions des 10 plaies, c'est d'obliger le pharaon à dire de lui-même sortez. L'écraser pour que les Hébreux puissent sortir, il suffisait d'une demi-plaie. Pourquoi il en a fallu 10? Parce qu'il fallait attendre qu'il dise d'accord. Et il a été tellement paniqué qu'il a dit allez, partez. Après, il s'est ravisé. Ça, c'est la scène de l'ONU déclarant le sionisme un racisme. Après avoir donné le feu vert à l'État d'Israël. Donc, vous voyez, le ravisement. Se raviser, on dit ça comme ça. Et c'est donc pourquoi il en a fallu 10 de plaies, et pas la dernière, ça aurait suffi à lui faire peur. C'est donc qu'il y a beaucoup de raisons pour ces plaies-là de notre sujet. Mais la deuxième clause que Jethro a imposée, c'est que Moïse accepte de donner un de ses deux fils à l'idolâtrie. Et c'est une des clauses qui a toujours étonné ceux qui l'étudient, que Moïse accepte de donner à l'idolâtrie un de ses deux fils, Machelou, Pélé. Et alors, on a une Gemara dans la Masoret Ketubot, que j'étudierai peut-être, une Braïta qui enseigne celui qui habite en dehors du pays d'Israël, aujourd'hui on appelle ça la diaspora, est considéré comme s'il était idolâtre. Alors, si on relie les deux données, le sens apparaît de façon très claire que Jethro a fait promettre à Moïse qu'un de ses deux fils s'occuperait des goïms. Un peu ce que disent les juifs en Amérique, qu'ils ont fait de là-bas, on s'occupe des goïms. Okay. On leur fait les comptes pour savoir ce qui nous revient. Et alors, la comptabilité américaine, 10%, on en trouve pas. Et alors, Ce qu'a d'extraordinaire, c'est que, c'est ce chidouche que je vais vous citer, c'est que le grand théoricien de la diaspora anti-israélienne a intitulé son livre « Vayoel Moshe ». Je ne sais pas si c'est une inadvertance, mais comme c'est son prénom, il s'appelait Rabbi Yoel, et il est mort, parce qu'on est vrai, un très grand haram anti, ce qu'il faudrait être, mais très grand haram. Et alors, les rabbins ont l'habitude de choisir un verset qui ressemble à leur nom pour donner le nom à leur livre. Il a trouvé pile « Vayoel Moshe ». C'est de l'humour macabre. Vous suivez ce que ça signifie? C'est inouï. Bon, top, je referme la parenthèse. Alors, je reviens au sujet. C'est que est un effet cherché à Asou Behara. Les personnes, le mot de personne est un singulier générique, c'est comme s'il y avait Nefashot, mais Nefesh, avec une offre à Haran, la Gemara est très claire, Abraham convertissait les hommes et Sarai convertissait les femmes. Ils ont fait, l'expression est restée dans l'hébreu, parler, la Asot Nefashot, les Hakim Nefesh, ça veut dire construire la personne de quelqu'un, comme si on l'avait vraiment enfanté, comme j'ai dit. Et alors on s'est posé la question, mais il n'y a plus aucune trace d'eux. Et pourtant, qui étaient les convertisseurs, si j'ose dire? C'était Abraham et Sarah, plus grand que ça, il n'y a pas. Ce n'est pas leur fonction, semble-t-il. Ça ne tient pas. Il faut qu'il y ait l'identité nationale pour que la religion d'Abraham tienne. Parce que la religion d'Abraham, sans la nation d'Abraham, ça serait une église fondée par mon cher Abénou, Dieu préserve. Bon. Vous avez compris le problème. Alors, il y a deux enseignements, c'est clair jusque-là, hein? Deux enseignements. Le premier, c'est que ces Nefashot sont revenus quand le clan d'Israël existait. Quand la nation d'Israël existait à la sortie d'Égypte, les âmes de ces personnes étaient présentes au Sinaï. Et que, à partir de cette tradition, que chaque fois qu'il y a un converti qui vient entrer dans le peuple d'Israël, on lui impute qu'il est la réincarnation d'une de ces Nefashot. Il revient. Mais il revient parce qu'il peut revenir, il y a où revenir. Il y a une adresse, la nation d'Israël, alors il revient. Tant qu'il n'y avait pas la nation d'Israël, t'as l'œil vers Ahmed. C'est clair jusque-là. Bon. C'est une des traditions. Il y a une deuxième, qui est que j'ai mal posé la question. La question se poserait comme ça. Si on se demande est-ce que la conversion à Israël est possible, il y a un enseignement qui fera dire non, c'est pas possible, on ne devient pas Israël, sauf ces réincarnations de Neshamol qui étaient au fond d'anciens Israël potentiels, mais qui n'avaient pas pu se maintenir dans l'histoire terrestre parce qu'il n'y avait pas encore la nation d'Israël, et que dès qu'elle a eu lieu, ils sont venus au Sinaï, et que donc les guérims auraient des Neshamol qui étaient présentes au Sinaï parce qu'elles sont la présence des Neshamot de Haran. Bon, ça c'est le premier courant. Le deuxième courant qui consiste à dire non, ça c'est vrai, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on peut devenir Israël. Alors c'est pas le moment d'analyser les deux thèses, mais sachez qu'elles existent toutes les deux. Et que la première a une implication que j'ai voulu analyser qui me paraît négative, dans le sens qu'elle consisterait à dire on ne peut pas devenir Israël. La preuve, c'est que tous les guérims, c'est des réincarnations des Neshamot de juifs qui reviennent. Vous voyez, à la limite. Bon, alors, à mon sens, c'est pas total pour la vérité du problème. La preuve, c'est qu'Abraham a pu faire des Nefashot qui n'étaient pas déjà de ses élèves à lui. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? La preuve, c'est comment ça a commencé. Alors, je referme la parenthèse et on continue. Vayetzehu, la Lechet, Arsa Kenaan, et ils sortirent donc de Oukazim, de Haran, pour aller en direction du pays de Canaan. Vous voyez qu'ils savaient où ils devaient aller, bien, ça on a dit la dernière fois. Oui. Ils rentraient chez eux. Vayabou, Arsa Kenaan, et ils arrivaient en direction du pays de Canaan. Ad Mekom Shrem, jusqu'à l'endroit où plus tard sera bâtie la ville de Shrem, où la ville de Shrem apparaîtra au temps de Jacob. Là, il y a une indication très importante. Pourquoi Abraham rentre en Eretz Israël à l'endroit où il y aura Shrem? Je ne peux pas l'expliquer aujourd'hui, ça nous prendrait trop de temps. Mais pour ceux qui ont déjà suivi ces enseignements l'année dernière, rappelez-vous l'importance de Shrem par rapport aux généalogies de Caïn. que Abraham sait où il va, à l'endroit où il y aura Shrem. Et en ce temps-là, le pays était occupé par le Cananéen. Alors, il y a un verset important que nous allons lire. Vayera Hashem el Abraham, et Dieu se révéla à Abraham. Vayomer, et il dit, les Zaracha, à ta postérité, etenet haaretz hazot. Vous voyez, les deux promesses à la fois. À ta postérité, donc tu auras une postérité. Etenet haaretz hazot, je donnerai ce pays. Et toute la promesse est résumé en quatre mots. C'est succinct. C'est pas explicite. Plus tard, ça va être dit de façon beaucoup plus explicite. C'est, je rattache à ce que je disais tout à l'heure. Au fur et à mesure qu'Abraham devient plus Abraham, il entend mieux le contenu de cette promesse. Est-ce que c'est clair, cette idée? Rei ben Sham Isbeach, il construit là-bas un hôtel, l'Hachem, Anira Ela, pour Hachem, qui s'était révélé à lui. Il y aurait beaucoup de choses à étudier dans ce texte, mais je mets juste en évidence cela. C'est que nous avons un témoignage de la Torah. Alors que Lot était avec Abraham, avant qu'il se sépare, il y a une révélation donnée à Abraham. Donc Abraham peut écouter cette révélation, lors même qu'elle concerne aussi Lot, puisque Lot est avec lui. Et d'après le principe, ce qui appartient... je ne rentre pas dans un principe ici, ça serait une parenthèse talmudique trop longue. Mais on va admettre par postulat que, puisque Lot est avec Abraham, il est concerné par les promesses que Dieu fait à Abraham. Et le verset le dit très clairement, qu'il y a une révélation à Abraham alors que Lot est avec lui. Nous allons prendre tout de suite, un peu plus loin, un autre verset, après que Lot et Abraham ont été séparés, pour voir la différence, et on reviendra un peu en arrière pour étudier les raisons de la séparation entre Lot et Abraham. C'est clair jusque-là? Alors, je vous donne l'autre verset, c'est... Une minute. Que ça me revienne. C'est un peu plus haut, attends. Voilà, je crois que j'y arrive. C'est le verset 14 du chapitre 13, c'est pas très loin. Alors prenez le verset 14 du chapitre 13. Lâchez ma mère là-bas. Donc après la séparation entre Lot et Abraham, il y a une révélation à Abraham, mais qui est beaucoup plus explicite. Alors on va l'étudier, parce que ça indique déjà les causes profondes de cette séparation. Vachem Amar et Abraham, vous avez le verset sous les yeux, le verset 14 du chapitre 13. Et Dieu dit à Abraham, « Ahare iparet Lot meimo, après que Lot fut séparé de lui, Sana enecha, élève tes yeux, ouré, et vois, minama komasha atasham, de là où tu te trouves, safona vanekva vakedma veyama, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qui kola aret asheratavre, lechan et benena, toute la terre que tu vois, c'est à toi que je la donnerai, uzaracha adolam, et à ta postérité à jamais, besanti et zaracha kafaret, ta postérité sera nombreuse comme la poussière de la terre, asherimucha lishlimnot, être affaire avec Gamzalachaimane, si même un homme est capable, il est possible de dénombrer la poussière de la terre, alors on pourra dénombrer ta postérité. Une promesse de fécondité qui est beaucoup plus large que les quelques mots qui avaient été dits quand Lot et Abraham étaient ensemble. Vous vous rappelez de cela? Je continue encore un verset. Kum italer baaret, lève-toi, et marche dans le pays, les orkal orba, en long et en large, qu'il est chaitinena, parce que à toi je la donnerai. Et voyez, vous reliez ces deux indications à toi, et d'autre part, après qu'ils se soient séparés de l'autre. C'est-à-dire, tout se passe comme si Rachid va nous le dire. Tant que l'autre est là, Abraham est gêné d'entendre ce que Dieu a dit à la lune. La promesse n'est claire que ce que Lot est séparé. Bien que Lot y est concerné. Mais Lot est resté dans l'opacité dont Abraham doit se dégager. Alors de quoi s'agit-il ? On va le voir immédiatement. Mais prenez d'abord Rashi sur le verset 14. Ahare il paraît de Lot. Vous avez Rashi sous les yeux ? Kozman, chez Arasha Imo, pendant tout le temps où le méchant était avec lui, Aya Dibour pour Eshmimenu. La parole le quittait. Ça veut dire, tant que le rachat, Lot, était avec Abraham, la parole ne pouvait pas être entendue par Abraham. C'est clair ? Objection, le verset d'avant. Mais voilà que lorsque Lot était avec Abraham, Dieu s'était montré à Abraham. Alors, il y a une note de Rashi, je ne sais pas si dans vos éditions elle est aussi. Oulael, Shaya Lot, et Flo. Mais dans le verset précédent, je vous rappelle la référence, vous l'avez en tête. Okay ? Le verset 4 du chapitre 12. Dans le verset précédent, alors que Lot était avec lui, Urti va y avoir Hachem et Abraham, il est pourtant écrit et Dieu s'est révélé à Abraham. Réponse de Rashi, Beotashara Kacheraya. En ce temps-là, il était Kacher. Et il ajoute Vekaleavin. Et c'est facile à comprendre. Et quand Rashi dit c'est facile à comprendre. Donc. Et alors, ça veut dire que c'est pas si facile que ça. Et alors, il faut identifier. Ça veut dire qu'il y avait un stade où Lot était cacher. Et il aurait pu être Abraham. Son histoire se serait résorbée dans l'histoire d'Abraham. Et donc, il y a une étape où ils sont vraiment ensemble. Et parallèle, et comme Abraham va le dire au moment de la séparation, on va se séparer parce qu'on se ressemble trop. Yanashim Achim Anachnu. On va voir ça tout à l'heure. Et il faudrait le comprendre parce qu'on ne fait que se ressembler et c'est pas la même chose. Et puis à un certain moment, il n'est plus caché. Ça peut vous expliquer beaucoup de choses, encore une fois, des péripéties de l'histoire juive contemporaine. Vous avez des hommes de la Torah qui sont ensemble jusqu'à un certain point. À un certain moment, il faut se séparer. Bien qu'à l'origine, c'était ensemble. Oui, je ne sais pas ce que j'ai mangé aujourd'hui, mais c'est féroce. Hein. Donc, mais c'est cachère, je dirais. Et j'ai mangé, en tout cas. Bien. Alors, je reviens au problème, on va se demander, qu'est-ce qui s'est passé ? Que Lot, il va nous apparaître comme étant le summum de l'impureté, a séparé d'Abraham, va être pendant un certain stade cachère, et puis sauf à un moment, ça va se tourner. Donc, voilà le programme maintenant pour ce qu'on étudie. Maintenant, les causes de la séparation. Ken ?
Je vais vous demander, vous avez mis l'accent sur le fait que la deuxième révélation faite à Abraham, elle est beaucoup plus profonde dans le deuxième cas quand il a cité Lot.
Plus explicite.
Oui, plus explicite. Et vous avez ajouté que pendant un moment, Lot était cachère. Et s'il était franchement cachère, la révélation aurait été beaucoup aussi grande.
Très bien. Ça veut dire que vous avez des gens cachères dans les apparences. C'est exactement notre sujet. C'est-à-dire que c'est suffisamment cachère pour être cachère. Mais dès que le jugement se fait, c'est la touma absolue. On ne peut pas relever ça autrement. Okay. C'était pas moi qui parlais, mais c'est le récit. Et je veux dire à quoi ça ressemble du point de vue des principes. Parce qu'il y a une autre dimension que nous allons suivre. Parallèlement au fait que se dévoilent les raisons qui font que l'autre est disqualifié, la Torah nous dévoile les raisons qui font qu'Abraham progresse en sainteté. Et alors c'est les progrès de sainteté d'Abraham qui dénoncent et disqualifient le stade l'autre. Tant qu'Abraham est au stade analogue, l'autre c'est cachère. Mais dès qu'Abraham est plus, alors ce cachère-là c'est tamé. Est-ce que c'est clair ? Vous avez compris l'idée. Et nous avons beaucoup d'épisodes de ce genre. Et je crois que ça explique en tout cas un épisode, je ne sais pas si je l'ai cité, c'est quand il y a eu la révolte de Korah contre Moshe. Vous voyez de quoi je parle ? Et alors Moshe, impuissant devant cette révolte, parce qu'il était Nogar Badabar, c'était contre lui que Korah se révoltait, demande le jugement de Dieu. Et le peuple tout entier voit que Dieu a jugé contre Korah pour Moshe. Juste le verset d'après, le texte dit que le peuple se rassemble contre nous, il dit « Tu veux notre mort, tu veux nous tuer tous ?» Alors que le peuple a vu que c'est Dieu qui a jugé et qui a condamné Korah, c'est-à-dire Korah avait tort et Moïse avait raison. Alors pourquoi est-ce que le peuple vient contre Moïse pour lui dire « Tu vas nous tuer tous ?» C'est la même idée. Ça veut dire, n'importe qui va entrer en compétition avec toi, il sera évidemment disqualifié a priori. À côté de toi, on est tous perdus. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire, le tzaddik est haï par le rachat, parce que c'est à cause du tzaddik que le rachat est puni. Tant que le tzaddik n'est pas là, le rachat, il y a patience, Dieu attend. Mais dès que le tzaddik se dévoile, le rachat est puni. C'est pour ça que le rachat haït le tzaddik. Vous avez compris?
Quelle est la solution?
La solution, c'est que le tzaddik aime le rachat. Alors ça s'arrange. Et ça s'arrange, je vais essayer d'expliquer. Ta question nous ouvre un monde de problèmes. Okay. C'est que il y a une Mishnah que le Rav avait souvent l'habitude de citer. Eve mitamidav shel Aharon, ohev shalom et rodev shalom, ohev et averiot umkaravam la Torah. La Mishnah dit ceci. Soit parmi les disciples d'Aaron qui aiment la paix et recherchent la paix, qui aime les créatures et les approches de la Torah. Et le Rav avait expliqué, ça veut dire qu'il aime les créatures qui sont loin de la Torah. Sinon on aurait à dire, et les rapproches de la Torah. Okay. Ça y est, c'est clair. Ça veut dire, si les tzadikim n'aiment que des tzadikim, les rechaim restent rechaim. Et ils sont perdus. Alors il faut convoyer deux tzadikim ensemble, séparez-les. Que chacun aille s'occuper d'un rachat différent. Vous ces concentrations de sa victime, ça finit par aigrir. Voilà, vous avez compris ce que j'ai dit. Et j'ai une fois donné la comparaison suivante. Je n'ai pas encore trouvé de source, mais s'ils en trouvaient une, ils vont envoyer un télégramme. C'est-à-dire, pour faire du pain, il faut du levain. Alors, le tzadikim, c'est comme le levain de la pâte. Mais si vous mettez la farine d'un côté et le levain de l'autre, et vous faites un pain avec du levain, c'est un pain aigre. Et le pain et la farine ne lèvent pas. C'est le sort du peuple d'Israël quand les tzadikim se séparent de leur peuple et s'enferment là où vous savez. Okay. Alors ça aigrit et puis ça pourrit. Voilà, vous avez compris le drame. Okay. Alors cette Mishnah est très importante. Donc, j'espère que vous n'avez pas compris des choses différentes qu'il fallait comprendre. Okay. La solution, je raconte une histoire. J'ai eu un jour un élève qui est venu Baal Tshuva, il y a longtemps. Je ne dirais pas qui c'est, vous risquez de l'identifier. Et alors, c'était il y a au moins 40 ans. Et alors, il est devenu un juif kasher de la Torah, il a beaucoup aidé les tzadikim séparés. Enfin, la suite. Et alors un jour, je lui ai dit, mais écoute, toi qui es passé par là, tu aurais pu pouvoir aider les autres. Et au contraire, tu t'es séparé. Et il m'a dit, voilà, je vais te dire pourquoi. Quand on a été une fois opéré, on a peur de l'odeur de l'éther. Alors il ne revient pas là où il a été opéré. Vous avez compris le problème? Il a peur du judaïsme éthéré. C'est que c'est un judaïsme éthéré. Avec des éthérim. Et alors, là... Alors je lui ai répondu, on ne voulait pas faire un hôpital, on voulait faire une faculté de médecine. Alors si le médecin a peur de l'odeur de l'éther, flatte. Bon, vous avez compris le problème. C'est grave. Tout du tout. Bon. Et alors, on verra aussi un épisode dans l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Un enseignement très important, c'est que le tzaddik aussi haït le rachat, mais il est interdit de haïr la personne du rachat. Il doit haïr ses comportements. C'est pas facile. Hein? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des rachaïms qui sont haïssables dans leur personne. Donc c'est pas un problème simple. Mais vous avez compris la partie de la question à laquelle j'ai répondu. Okay? C'est que rappelez-moi l'origine. Première de la question, parce qu'après on a eu des différents niveaux, ça m'échappe. Rappelez-moi, je ne vois pas exactement d'où on est sorti. C'est quoi la suite d'une question? Ah oui, c'est ce que j'avais ajouté là. C'est-à-dire, ça nous verrons. Abraham grandit en sainteté. Alors par contraste, le cachère de l'autre, ça devient tamé. Est-ce que c'est clair? C'est pas clair?
Non, depuis quand vous parlez de cacheur, je me suis tout pensé à la cacheur et à la glade. C'est pas bon, je me rapproche.
Ah oui, alors tu vas nous glacer. Guida. Mais. Non, j'ai dit cacheur en citant le mot que Rachid a dit. Il ne s'agit pas de cacheroute, de la nourriture, il s'agit.